recherche, cette méditation. Pourquoi des tas de prêtres ne veulent plus confesser? Alors, il y a marqué les carmes, etc. Il n'y a pas que les carmes. Il y a... Même moi, je ne veux plus confesser. Les carmes, les frères Saint-Jean, ils ne veulent plus confesser. Les jésuites, les dominicains, on ne veut plus confesser. Parce que de plus en plus, ceux qui se confessent, aujourd'hui, viennent voir le prêtre, soi-disant pour le sacrement de pénitence, et en réalité, ils ne font pas une confession. Ils viennent psychologiquement, le prêtre, il sent ça, et il n'aime pas, il est gardien d'un sacrement, et il ne veut pas que le sacrement soit brisé par une matière informe. Alors, souvent c'est ça, il y a une espèce d'exaspération. Et attention, le prêtre a reçu pouvoir de lier sur la terre pour lier dans les cieux, et de délier sur la terre pour délier dans les cieux. Donc il peut absoudre, il peut refuser l'absolution. Ça fait partie du pouvoir sacerdotal, et à travers ça, il y a quelque chose à comprendre. Il y a pouvoir de lier, pouvoir de délier. Et les deux sont sauveurs. Refuser une absolution, c'est sauveur. Refuser une confession, c'est sauveur. Donner la confession et l'absolution, c'est sauveur aussi. Il faut les deux. Parce qu'il faut que la matière du sacrement soit respectée. Donc si j'ai des gens qui viennent à moi sans contrition, sans décision, alors ils répètent toujours la même chose et ils ne font rien pour changer. Si j'ai des gens qui viennent à moi et qui font un aveu qui est psychologique et qui n'est pas spirituel, c'est normal, le prêtre dit, écoutez, non. Revenez, mûrissez un peu. Et puis, acceptez de dire les péchés tels qu'ils sont. Ceux qui vous blessent. Ceux qui blessent Dieu, ceux qui blessent la nature. Si c'est une confession psychologique, c'est pas une confession, c'est une psychanalyse, c'est... On cherche un confident, quoi. On cherche quelqu'un qui m'écoute. Mais Jésus m'écoute dans la confession, mais il veut pas m'écouter sur le plan psychologique. Il veut m'écouter mon cœur. Il veut écouter mon cœur. Il veut écouter mon cœur d'homme, humain, pas mon cœur animal, mon cœur d'homme. Vous voyez ? Et donc c'est normal, si vous voyez des prêtres qui disent non, c'est peut-être pas vous, c'est pas de votre faute, mais c'est parce que vous en avez 10 avant qui se sont confessés, le prêtre il sent bien que Jésus n'est pas passé par là. Alors, on vous envoie bouler, pourquoi ? Mais parce que vous devez être source de rédemption. Pour ceux qui ne sont pas rentrés dans la matière même de la confession, dans l'essai, dans l'être en acte de la confession. Vous voyez ? C'est à cause de ça. Alors à ce moment-là, vous devez porter avec le prêtre, et puis vous réenfanter dans le prêtre, et dans ceux dont vous prenez la faute, finalement. Vous réenfantez cette possibilité d'une grâce pour comprendre que peut-être il faut qu'il rentre dans la confession comme dans un sacrement, comme dans un mystère, comme on rentre au ciel. On rentre au ciel. Jésus est passé à travers le voile, et il est rentré devant la face du Père, en pleine gloire. C'est comme ça qu'on rentre dans le sacrement de pénitence. C'est pas en disant « Oh malheur, aïe 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 ». C'est dans la joie qu'on rentre dans le sacrement de pénitence. C'est dans l'espérance qu'on rentre dans le sacrement. C'est dans la certitude du pardon. On est déjà pardonné. Et on veut, parce qu'on sait qu'on est déjà pardonné. On sait que... Et du coup, on n'a plus de sentiment de culpabilité. C'est fini. Et du coup, on le donne pour que les autres péchés soient pardonnés. Les autres péchés du monde. À cause de ça, qu'on rentre dans le sacrement de pénitence. Donc je reprends ce que nous avons vu, c'est bien de reprendre. Donc vous voyez, on avait vu en effet que ce qui structure le mystère de la confession, c'est la confession du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu éternellement montre, dans le face-à-face avec le principe, qu'il est le Verbe. Il montre ce qu'il est. C'est la béatitude de Dieu de montrer ce qu'il est à Dieu. Et c'est la nature même des personnes divines d'être dans cette béatitude infinie, substantielle, éternelle, qui consiste à être pleinement ouvert. Et on se montre tel qu'on est. Et cette ouverture est si grande que du coup, la confession fait l'unité, vous le savez bien, fait la joie. Et du coup, il n'y a plus que cette joie de l'Esprit-Saint. C'est pour ça que l'Esprit-Saint ne se confesse pas. L'Esprit-Saint, dans la très sainte Trinité, est le fruit de la confession du Fils dans le Père. Il va y avoir la confession de l'Esprit-Saint. Mais pas avant la création. Il va falloir la rédemption et la Pâque pour que l'Esprit Saint puisse confesser qu'il est l'amour. De confession et du mystère de la confession. Donc on l'avait vu. Et cette confession perpétuelle du Fils de Dieu qui constitue le Fils de Dieu comme Fils, il montre qu'il est pleine lumière, lumière, et il est en pleine lumière. C'est le sacrement de la lumière, la confession. On est en pleine lumière, rien n'est caché. On se montre tel qu'on est. Alors il va vivre en effet cette confession dans son cœur d'homme selon toutes ces étapes que nous avons vues. D'abord dans l'incarnation, il s'assimile au centre du péché, il s'est fait péché pour nous, à la nativité et à la naissance. Il commence, j'allais dire, à se consacrer pour être la victime. Mais une victime innocente, immaculée, le péché ne l'a pas encore éclaboussé. Il est dans le sein d'une Vierge immaculée. L'Immaculé, vous voyez, le capard, c'est-à-dire le bitume, l'a pris de l'intérieur, il a pris chair. Mais de l'extérieur, il n'est pas éclaboussé. C'est ce qui exprime le fait qu'il est dans le ventre d'une Vierge immaculée. À la naissance, il reste immaculé, il est dans la Sainte Famille. Il reste immaculé, il est consacré à Dieu. Ah, il rentre dans le temple, ça y est. Il va être... Et vous voyez ce que dit l'Épître aux Hébreux. Quelle est la première parole, la première confession, la première parole qui est sortie de Jésus, d'après l'Écriture, d'après le Nouveau Testament. Qui le sait? Quand même, vous êtes chrétien depuis combien de temps? Vous ne savez pas quelle est la première parole que Jésus a prononcée?
Abba?
Non.
Abba?
Abba. La première?
Non.
Bon. Ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? Vous ne savez pas quelle est la première parole de votre Dieu, de votre Messie, de votre Sauveur sur la terre? La première chose qu'il a dite? Non. La première... Pardon? Me voici, c'est la Vierge qui a dit me voici. Dans l'Évangile, dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. Quand il a été... Quand il a enseigné... Non, il a dit quelque chose avant. Je suis... Non, ça, il l'a dit après. À 12 ans. C'est bien, dis-moi la référence. Non, c'est bien. Vas-y, dis. Seigneur, tu m'as donné un corps. Tu n'as voulu... Dis-moi le verset qu'il y a juste avant. Le Christ, en venant en ce monde. En entrant dans ce monde, à la naissance. En entrant dans ce monde, vas-y, le Christ dit, donc citation.
C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, pas sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps, point. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici d'où je viens, car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire au Dieu sa volonté.
Il a bien dit, me voici. Mais, voyez bien, hein? Épître aux Hébreux, chapitre 6.
À partir du verset 5. Voilà.
Ah, pardon, c'est l'Esprit Saint qui révèle, je suis désolé. L'Écriture, c'est l'Esprit Saint qui révèle la vérité. Donc, si l'Esprit Saint dit à travers l'Épître aux Hébreux que le Christ a dit en entrant en ce monde, me voici, tu m'as façonné un corps, me voici, tu ne voulais ni offrande ni holocauste, alors j'ai donné mon corps. Pour m'offrir ni offrande ni holocauste, c'est pour le pardon des péchés. Ben oui, il faut chercher dans le Nouveau Testament. Il y a trois grandes parties dans le Nouveau Testament, celle du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Il ne faut jamais oublier ça. Les Évangiles, et les Épîtres et l'Apocalypse. Jamais oublier ça. Bon. Alors, celle du Fils, c'est les Évangiles, celle du Saint-Esprit, c'est l'Église, les Actes des Apôtres et les Épîtres, et celle du Père, c'est l'Apocalypse. Bon, alors, donc vous voyez bien que la première confession, c'est une espèce de pré-confession, voici je viens. Mais dès qu'il y a l'enfant, ça y est, la Vierge Marie doit traiter justement ça. Elle doit éduquer, elle doit amener petit à petit enveloppée, mais en même temps, elle sait qu'elle doit faire que Jésus soit éclaboussé et que le péché l'atteigne petit à petit en fonction de sa croissance. Il va faire petit à petit l'expérience du péché du monde. Et c'est la confession, vous voyez. Et dès qu'il y a ne serait-ce que quelque chose qui apparaît, il est, ça y est, il en fait l'expérience et ça l'atteint. Le péché, vous voyez, c'est ce que les différents exemples, vous voyez, c'est la manière nouvelle dont Jésus confesse ici dans l'enfance. Ça y est, il s'ouvre à la connaissance du péché dans son cœur d'enfant, dans son cœur d'homme. Et il va connaître le péché non seulement en son centre, comme Dieu le Père le connaît, comme Dieu le Fils le connaît, non seulement en son centre, mais il va connaître le péché ici par l'extérieur aussi. Le capard, donc, du bitume de l'intérieur va se compléter par le capard de l'extérieur. Vous voyez bien. Et il va être couvert petit à petit du péché. Et à la fin, il n'y aura plus que du péché. Il sera fait péché. Et donc, vous voyez, c'est petit à petit. Et donc, il y a cette ouverture, il accepte de faire connaissance expérimentale avec le monde et le péché. Et c'est ça, l'ouverture. Ensuite, il choisit avec le baptême de Jean-Baptiste, et quand Jean-Baptiste décide de baptiser, il constate, et il constate que Jean-Baptiste commence le baptême, proclame la conversion, et du coup, il décide que c'est son heure d'aller lui-même, et de s'offrir lui-même, et d'aller directement à la confession, à sa confession finale. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que avant la confession, il y a le péché, si vous voulez. Nous sommes dans notre péché, les éléments du sacrement. Voyez ? Alors, il y a... Et puis, on passe à un moment à cette contrition qui fait que, oui, on veut bien voir. On veut bien voir notre péché en face et qu'on est meurtri par ce péché. On veut bien le voir en face. Il y a cette ouverture à la connaissance de notre péché et le choix de la confession. Voilà, la contrition apparaît tout de suite. C'est ça, c'est parce que Jésus, ça a commencé comme ça, et du coup, on décide de s'en séparer. Jésus décide de se séparer définitivement du mal, explicitement, à titre de confession, aux tentations. Aux tentations contre le diable, eh bien, vous voyez bien, après le baptême de Jean-Baptiste, hein, ça y est, il décide non, et se sépare de Satan. De même, je décide de me séparer de mon péché, et je décide de me confesser. L'examen de conscience correspond à la tentation, au passage de la tentation des 40 jours à la vie publique. La vie publique, c'est précisément la première fois où Jésus dit « condamne le péché du pharisien, condamne le péché de l'orgueil, condamne le péché d'Israël, condamne le péché du monde, condamne le péché des apôtres. Manifeste le péché des hommes, manifeste le péché de Judas. » Un de vous me livrera. Et quand Pierre arrive en disant je te suis partout, il n'y a pas de problème. Menteur, arrière Satan. Mais il manifeste le péché. Il manifeste le péché tout le temps. Et à ceux qui sont les plus religieux, il manifeste le péché de manière encore plus violente. Bande de vipères, scorpions, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Vous voyez, il confesse le péché. Et il le confesse. Et il y a tout un examen de conscience, si vous voulez, dans la douceur, dans la fermeté, selon précisément la nature des différents péchés. Et c'est ça la vie publique, jusqu'à Gethsémani. Gethsémani, c'est l'attente. Je fais l'examen de conscience, je décide du choix de confession, je me sépare, je veux vraiment me séparer du péché, je fais du coup l'examen de conscience. Et j'attends le moment de la confession. Alors je téléphone au curé, je dis, est-ce que je vais me confesser? Non, dans un mois. Est-ce que bon, très bien, etc. Vous voyez, bon, et puis je vais au confessionnal, et puis j'attends, il y en a 15 personnes qui attendent, oh là là, il y en a pour 2 heures, j'ai mes courses et tout. J'attends, et c'est Gethsémani, vous comprenez? Et de l'attente à l'aveu, ça y est, je suis en face du prêtre, ça y est, et je fais l'aveu, et je dis, et je livre les choses telles qu'elles sont, c'est la mort sur la croix, la confession finale de Jésus crucifié. Voilà, alors il y a l'exhortation, je vous l'ai dit tout à l'heure, le silence, la blessure du cœur, l'absolution, et puis, allez en paix, la résurrection. Ces 4 éléments sont contenus dans l'absolution. Et elles sont contenues toutes les 4 dans la formule de l'absolution. Mais la forme de l'absolution, c'est « Moi, je te pardonne ». Ça suffit. Si le prêtre vous dit « Moi, je te pardonne », ça suffit. Mais la formule est plus longue. Et dans la formule longue que l'Église demande, il y a ces quatre éléments. Alors après, vous faites la pénitence pour satisfaire à vos péchés. Mais puisque vous êtes entièrement pardonné, votre pénitence, c'est pour compléter et pour rentrer dans la co-rédemption et pouvoir précisément devenir avec le Christ un nouveau rédempteur et souffrir encore davantage de votre péché. Ce n'est pas parce que vous avez été confessé que le péché, du coup, il n'est plus là. Il y est de plus en plus. Heureusement. Ce qui montre bien que ce n'est pas pour se débarrasser au niveau psychologique de ces péchés. Non, 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 non. Parce qu'on est de plus en plus conscient et on rentre dans notre mission qui consiste à partir de cet état de péché pardonné, de porter tous les péchés non pardonnés. Et du coup, le péché qui pardonnait est encore plus présent puisqu'il est porteur de tous les péchés non pardonnés du monde, de l'Église. Et c'est ce qui se passe à l'Ascension. C'est pour ça que de Pâques à l'Ascension, Jésus ne remonte pas vers le Père. Il y a 40 jours. Il y a 40 jours. Vous voyez ce que ça veut dire? 40 jours. Les 40 jours de la tentation des airs. Les 40 jours du déluge. Du premier capard. Du premier pardon, l'arche. C'est extraordinaire tout ça. De sorte que l'Église, eh bien, elle reproduit exactement toute la confession de la vie du Christ dans une seule confession sacramentelle. Et c'est la réincarnation dans une seule confession en nous de toute la vie du Christ. Vous voyez bien que dans l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui sont consacrés. Mais dans la confession, c'est mon cœur pris par le péché qui est consacré. C'est mon péché qui est la matière, le pain et le vin, la consécration et qui fait que c'est toute la vie de Jésus qui est présente, ça y est, réellement, définitivement. C'est. Alors, c'est pour ça que dans les éléments, vous voyez, vous avez la matière, le sacrement, qui est la contrition, la décision de ne pas recommencer, le ferme propos, séparation du péché, la confession, l'aveu des fautes, on apporte les fautes. La forme, c'est l'absolution, l'effet, c'est la remission des péchés. D'accord. Bon, tout ça, on l'a vu. Nous avons vu hier que ça correspond à la confession des sept dernières paroles du Christ sur la croix, nous l'avons vu hier. Faites-vous-même le tableau par rapport à ce que nous avons vu sur le chapitre 17 également de l'évangile de Saint Jean hier. Mais là, j'ai mis ça pour que vous puissiez faire le rapprochement avec le tableau d'hier. Mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? C'est le pécheur qui a péché. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis séparé de Dieu, quoi. Entre tes mains, je remets mon esprit, c'est la contrition. C'est à travers ça, à travers le péché que je rejoins, la très sainte Trinité. Parce qu'en pleine vérité, je vois le péché et je remets et du coup je suis spirituellement dans l'Esprit divin et dans l'Esprit de la très sainte Trinité, dans la vie de la très sainte Trinité. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis, c'est le ferme propos. Je suis décidé à rompre avec le péché, Jésus est décidé, il dit aujourd'hui ça y est, tu y es dès maintenant. Dès maintenant tu es pardonné, j'ai soif. C'est la confession, c'est la soif de recevoir toutes les gloires de Dieu à travers et dans le nid de mon péché. Voici ta mère, voici ton fils, c'est la vie qui vient avec l'absolution. La vie, la plénitude de grâce, la plénitude de gloire, la mère, la plénitude du salut, voici ton fils. La plénitude de l'Église, voici ton fils. Tout est accompli, c'est la pénitence. Il faut achever l'œuvre. Tout le domaine de l'indulgence, il faut faire sa pénitence. Il faut être co-rédempteur, ça ne suffit pas. Il faut devenir un saint. Et enfin, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne leur Seigneur. C'est notre mission d'obtenir le pardon pour tous ceux qui n'ont pas reçu le pardon. Et on a un pouvoir de rédempteur à la sortie du sacrement de pénitence. Et on doit l'utiliser. Et donc, dans l'oraison, on se réincarne, pour ainsi dire, dans la vie du Christ tout entier. Et c'est pourquoi que les noms du sacrement, on l'appellera comme pour la messe, donc on dira, la messe, c'est la messe, c'est une mission, la messe, C'est une eucharistie, c'est une action de grâce. La messe, c'est une... Bon, etc. Vous voyez, la messe, c'est une... C'est un repas, la messe, c'est un sacrifice. Je pense que c'est là. La messe, eh bien, pour le sacrement de pénitence, c'est pareil. Il y a plusieurs noms. Sacrement de réconciliation, du péché au pardon, du péché à la contrition, c'est la réconciliation. Je suis déjà pardonné. Sacrement du pardon, sacrement de confession, sacrement du salut, sacrement de pénitence, sacrement de la joie. On pourrait dire aussi sacrement de la lumière. Les sept noms du sacrement, c'est le sacrement de la lumière. C'est une espèce de transfusion sanguine, une espèce de ce que dit le père Daniel Ange, là, que certains connaissent. Et il dit, ben voilà, c'est tout simplement le SAMU. Dans le SAMU. Mais oui, parce que dans le SAMU, eh bien, c'est transfusion de sang. Notre sang de pécheur, c'est une transfusion du sang, c'est le sang de Jésus qui vient couler dans nos veines. C'est transfusion de sang. C'est joli, ça, c'était très bien. Il disait ça en Lituanie, tu te rappelles? Alors, on va maintenant, tout le monde au SAMU, pendant les 10 km qui nous séparent de Kretinga. Allez, alors il disait, hein, maintenant, dans le sacrement de la lumière, nous rentrons tous dans l'ambulance de Jésus, et hop, tous à la confession, hop, transfusion de sang. On sort tous avec le même sang. Super. C'est pas l'eau qui est transformée en vin, vous voyez, c'est la lumière qui est transformée en sang. Et c'est ça, et c'est vrai. C'est la lumière sur notre péché qui est transformée en sang de gloire, en feu. Bon, et du coup, nous allons pouvoir passer maintenant à la suite, à moins que vous ayez des questions à poser sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Vous avez forcément écrit ça sur un bout de papier, j'espère.
Oui. Je reprends au tableau, tout à l'heure vous avez dit les cinq, l'été, le bonhomme, le verrou,
oui.
L'état et le devenir.
Oui.
Et là il y en a six apparemment.
Ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, réconciliation. 2, pardon. 3, confession. 4, sacrement du salut. 5, pénitence. 1, pour la matière, pour les éléments du sacrement. 1, la contrition. 2, le fait à propos. 3, la confession. 4, l'absolution. 5, la rémission des péchés. C'est que ici, effectivement, il y a un enveloppement. Il y a un enveloppant. C'est la préconfession. Et un autre enveloppant, par derrière, c'est le point de vue ici de la mission. Le fruit. Mais sinon, tu en as 5. 1, 2, 3, 4, 5. De l'enfance au baptême, de la tentation à la vie publique, de Gethsémani à la mort sur la croix, la blessure du Pâques à la résurrection et l'ascension. Et donc, tu as 5. Tu as l'ouverture à reconnaître le péché, le choix de la confession, la résolution et l'examen de conscience, l'attente et l'aveu, l'absolution, la pénitence, la satisfaction. Ça fait bien 5. Mais ces cinq se transforment toujours, il y a toujours sept, forcément. Puisque d'un côté, il y a l'alpha, qui est la très sainte trinité, et l'oméga, qui est la récapitulation glorieuse de tout. Toujours. Bon, ça c'est une reprise de ce que nous avons vu, donc... est-ce que vous vous sentez capable de continuer? Vous voyez que c'est quand même quelque chose, hein, le sacrement de... Le mystère de la confession, c'est quelque chose. Hein. Alors, quelles sont les présences maintenant? Dans tout sacrement, il y a une... Du moins, les transformations, les mutations qui s'opèrent. Donc, ce qui correspond à la transsubstantiation. Quelles sont... Les transformations qui sont opérées grâce à nous par, je sais pas quoi mettre comme mot, je mets transmutation, mais transconversion, je sais pas ce que on peut. Je sais pas. Bon. Vous avez la présence. De la lumière, de la procession de la lumière dans la Très Sainte Trinité à la procession de l'amour dans la Très Sainte Trinité. Vous avez ce passage de la procession de la lumière dans la très sainte Trinité qui fait que le Père engendre un Verbe. Ça, c'est la procession de la lumière. Et que et la procession de l'amour, c'est l'unité de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire du Père et du Fils, dans la très sainte Trinité, mais produit l'amour, l'aspiration, l'Esprit Saint. Eh bien, c'est ce passage de la procession de la lumière à la procession de l'amour qui est présent dans le sacrement, dans le mystère de la confession. C'est la confession éternelle, incréée. Ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Je vais y revenir. Il faudrait que, vous voyez, le Père engendre un Fils, un Verbe. C'est une procession dans l'ordre de la lumière. Parce que Dieu, il n'y en a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est là? Ah! Ça m'a dit sans racine. Du gourou réalisé. Hein? Non. Dieu n'est pas le samedi sans racine du principe non manifesté d'un gourou réalisé. Pas du tout. Dieu est vivant. Dieu est fécond. Dieu est contemplation. Dieu est amour. Et quand Dieu est, c'est parce qu'il contemple. Il contemple qui? Il contemple Dieu. Quand Dieu contemple, c'est le Père. Mais il contemple qui? Il contemple Dieu. Quand Dieu est contemplé, c'est le Verbe. C'est donc une procession dans l'ordre de la lumière que la génération du Fils dans le sein du Père, par la contemplation. C'est pour ça qu'il y a un seul Dieu et deux personnes, ici. Puisque Dieu contemple, et Dieu est contemplé. C'est pas possible qu'il soit deux dieux, là. Il n'y en a qu'un, on voit bien. Sinon, personne n'a... Celui qui ne comprend pas ça, ça veut dire qu'il n'a jamais contemplé. Procession dans l'ordre de la lumière. Mais ces deux sont vraiment Dieu. Tout entier, ils s'aiment. Il y en a un qui est l'époux, l'autre qui est l'épouse. Au fond, ils s'aiment comme deux personnes, ils sont ouverts. Cette confession éternelle du Fils face au Père, du Père face au Fils, fait que se réalise une unité, une immense unité, une prodigieuse unité d'amour entre eux. Et de cette unité d'amour entre eux, émane, procède, un fruit. Et ce fruit, on l'appelle l'Esprit Saint. De sorte que, vous voyez, il y a deux processions. Une procession dans la lumière et une procession dans l'amour. Eh bien, la confession vous met en présence de ce qui vous fait passer de la procession à lumière à la procession dans l'amour. Donc, il vous met en présence de la joie du Fils dans le Père. C'est la joie du Fils dans le Père qui produit la gloire essentielle et substantielle qui est l'Esprit Saint. C'est dans cette joie que vous rentrez dans la réconciliation. Dès que vous êtes pécheur, regardez la parabole, on pourrait prendre la parabole de l'enfant prodigue, si vous voulez, ce qui est assez évident. Il est complètement irréaliste ce qu'il a fait, il dit « je vais aller vers mon père ». Ça y est, il a la contrition, « je vais aller vers mon père ». Ça y est, il est réconcilié, le père et le fils. Tout se réalise dans la joie. Le Christ a dû expliquer cette parabole en chantant, en dansant, dès le départ. Dès qu'il y a eu la décision du enfant prodigue dans sa parabole, il y a une joie incroyable. Oui. Alors c'est ce passage, vous voyez, de la procession de la lumière à la procession de l'amour. La confession éternelle incréée. Je vais y revenir parce que c'est sûrement la chose la plus importante du fruit de la présence de Dieu dans le sacrement de confession. De même que dans l'Eucharistie, il faut quand même que je sois conscient quand même que c'est Jésus qui est présent là. De même dans la confession, il faut que je sois conscient de qui et quoi, enfin, en Dieu est présent. Bon, parce que tout sacrement implique présence, hein. C'est pas moi qui vous l'apprends. Alors, la deuxième, c'est le passage du don à l'accueil. Je vous l'avais déjà expliqué le premier jour. Vous passez, c'est le don à l'accueil, vous passez, au fond, c'est le passage, vous comprenez, dans l'Eucharistie, ça c'est le petit lien avec l'Eucharistie, ça, qui est là. Le pardon, c'est un don parfait, il vous donne, il vous met en lien, il vous met immédiatement en lien avec l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, Dieu, Jésus, le Père, la divinité tout entière, l'humanité glorifiée tout entière du Christ, est donnée parfaitement à vous. C'est Jésus et Dieu qui vous se donnent parfaitement à vous. Et vous, vous l'accueillez. Et ici, dans le sacrement, c'est le contraire. C'est vous qui donnez ce que vous avez fait, vos moissons, ce que vous avez moissonné de vos actes. N'est-ce pas? C'est-à-dire du verjus. Mais vous l'amenez joyeusement et c'est accueilli par le cœur de Jésus crucifié et ressuscité. Et donc, c'est le contraire. Enfin, c'est complémentaire par rapport à l'Eucharistie. Pour qu'il y ait amour entre Jésus, Dieu et nous, il faut que j'accueille son don. Il faut qu'il me donne, se donne à moi-même dans la mesure où je l'accueille. Mais il faut moi-même que je me donne et qu'il m'accueille. Et qu'il accueille ce que je lui donne. Il faut qu'il y ait la réciprocité, sinon il n'y a pas d'amour. Donc, entre le pardon de l'Eucharistie et le pardon de la confession, il y a une unité substantielle. Le passage donc du don à l'accueil du don. C'est pour ça que je me confesse avant, parce que je donne mes péchés et du coup je peux accueillir le pardon qui est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est le pardon du Père à toute l'humanité. C'est le don parfait du Père à toute l'humanité. Donc c'est le passage du don à l'accueil. C'est la réponse, si vous voulez, d'amour que nous faisons à Jésus, que nous faisons au Père. La deuxième transmutation, c'est la fameuse confession du Christ, le passage de l'incarnation à la rédemption. Les gens qui ne se confessent pas, ils disent, mais oui, moi je veux bien vivre de Christ, du Messie, de Jésus. Pour moi, j'aime Jésus. Alors, ils reçoivent Jésus, et je vis de Christ. Moi, je suis chrétien, etc. Ah oui, pas de problème. Oh, mais la croix, ça me... Oh, la croix, la souffrance, tout ça, ça c'est accablant. Ça, non, 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 ça, je ne veux pas voir ça. C'est Jésus, bon, d'accord, Jésus transfiguré, Jésus au tabord. Très bien, l'incarnation, merveilleux. La rédemption, ah non. Ce pourquoi il est venu. Son être, oui. Sa vie, non. C'est le passage de l'incarnation à la rédemption. Ça, c'est très important. Ce passage, rappelons-nous toujours que c'est Marie qui le fait. C'est la Vierge Marie. N'oubliez pas que c'est Abraham qui a été chargé d'amener Isaac au sacrifice pour qu'il soit sacrifié par Abraham lui-même. Que les saints disent que c'est une prophétie. C'est Marie qui devait dire oui pour l'incarnation, mais elle ne disait pas oui à l'incarnation. Dieu n'avait pas besoin du oui de Marie pour l'incarnation. Dieu avait besoin du oui de Marie pour que l'incarnation soit victimale. Elle n'a pas dit oui à l'incarnation, elle a dit oui à ce que celui qui s'incarnerait en elle soit sacrifié, broyé, torturé par le péché. C'est à ça qu'elle a dit. Elle a accepté, comme Abraham, d'être le sacrificateur de son fils. C'est à ça qu'elle a dit oui. Et du coup, Jésus, quand il est entré dans le monde, Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 5, eh bien, il fait comme sa mère. Il a dit, tu m'as donné un corps. Tu ne veux ni sacrifice ni holocauste. Eh bien, me voici pour être broyé. C'est ce passage, la grande confession de la Vierge. Il faudrait faire une magnifique colonne. On va chercher bien et on fera sûrement une colonne pour voir la confession de la Vierge. Bon, c'est facile, hein. Il suffit de voir comment Marie a suivi Jésus instant après instant. Mais c'est ça, vous voyez qui est là. Le passage de la mort, l'absolution, c'est le passage, je suis présent au passage, à travers le prêtre cette fois-ci, je suis présent au passage de la mort à la résurrection de Christ. Le corps de Jésus, le cœur de Jésus, l'âme de Jésus est aux enfers. Le corps de Jésus est dans le tombeau. C'est la mort totale. C'est incompréhensible. Et ce passage à la Pâque, il est partout présent, pleine gloire. Voilà la présence, voilà à quoi j'assiste, ici, dans le confessionnal, entre le prêtre et moi, là. Résurrection. On ne peut jamais être aussi proche physiquement et spirituellement de l'instant de la résurrection qu'à la confession au moment de l'absolution. Alors, une fois qu'il y a eu effectivement l'absolution, c'est le passage du prêtre à la victime, du Christ à la Vierge, du corps mystique, à la mission du corps mystique, la constitution de l'Église et à sa mission, la co-rédemption. Alors voilà les trois grands passages qui sont importants. Vous voyez, en effet, le prêtre et la victime, donc le confesseur et le confessé, n'est-ce pas ? Après, par le mystère de la résurrection, de la confession de Christ ressuscité, sont cette fois-ci unis dans un même mystère. Et maintenant, le prêtre est devenu la victime, le pécheur est devenu prêtre. Donc le prêtre devient victime. C'est pour ça que le curé d'Ars faisait pénitence pour le père Léopold aussi, le saint Léopold, dont on a lu des passages de la vie qui étaient canonisés par Jean-Paul II et béatifiés par Paul VI, qui était né en Croatie d'ailleurs, Bosnie-Herzégovine, qui mesurait 1m35. Il est encore plus moche que Saint Jean de la Croix. Bon, eh ben, voilà. C'est le passage du Christ, la présence du Christ, à la présence de la mère, du mystère de compassion. La mère, cette fois-ci, prend possession. Parce qu'elle est en même temps prêtresse et victime, elle, dans l'unité, elle porte Jésus. Elle est la victime, cette fois-ci. Une fois que Jésus est ressuscité, elle est en même temps la grande prêtresse, la grande médiatrice. Et donc je passe de la présence du Christ à la présence de Marie. Marie dans son mystère de compassion. Et du coup, je passe de la présence du corps mystique qui était déjà présent ici. Toute l'Église était déjà présente ici. Là, je suis pardonné, moi, mais là, toute l'Église est présente. Je demande pardon pour toute l'Église, toute l'humanité. Et l'Église est constituée dès que je suis en face d'un prêtre. Toute l'Église est là. Tout le corps mystique est là. C'est pour ça que c'est bien de faire sa confession en présence de tous les péchés qui ont été commis sur la terre depuis le début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Mais je présente les miens. Et en présentant les miens, je sais qu'ils sont liés physiquement, directement à tous les autres péchés. Alors je présente les miens pour que les autres puissent être pris par Christ. Donc l'Église est déjà là. Mais le passage donc de l'Église comme corps mystique à sa mission de co-rédemption. L'Église, à la fin, doit être immolée. L'Église doit être méprisée. Tous ses membres doivent être martyrisés, persécutés, méconnus, écrasés. Comme Jésus. Comme Marie. Marie, ça a été de plus en plus jusqu'à la dormition. Et donc, vous passez du baptême, si vous voulez, qui vous incorpore au corps mystique, à votre mission de co-rédempteur. C'est facile, ça. On vous a donné votre mission. La confession. Et du coup, c'est pour ça, du reste, que vous faites pénitence, que vous priez. Vous voyez ? Que vous savez, allez en paix, voyez ? Allez en paix. Bon, ferez ça. Allez en paix. Alors, vous partez, vous avez cette mission de corrélation, de porter le péché du monde entier, de prier avec le péché du monde entier. Puisqu'on vous a pardonné vos péchés, et bien maintenant, c'est à vous de déverser la miséricorde de Dieu sur le péché du monde entier. Et de supplier le Père que ses péchés aussi soient pardonnés. Ce que dit la Vierge à la Salette, elle pleure à la Salette. Et vous savez ce qu'elle dit? Pourquoi est-ce que... Sans doute, il devait se dire, mais pourquoi elle pleure? Pourquoi vous pleurez? Ils n'osaient pas poser la question, Mélanie et Maxima. Et la Vierge dit, les prêtres, les ministres de mon fils, sont devenus des cloques d'impureté. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime pour le salut du monde et pour implorer miséricorde. Les prêtres, hein, c'est les baptisés. Attention, c'est pas seulement le. Non, le maxima culpa aussi, hein, je suis d'accord. Hein. Mais les prêtres, les baptisés, le baptême fait que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et il n'y a plus personne. Des cloques d'impureté. Ah, elle pleure, elle pleure, elle pleure. On va le lire, vous inquiétez pas, c'est au programme. Le message de la Salette. J'ai l'intention. C'est vraiment la confession de la Vierge pour nous. La Salette. Et à chaque fois, elle dit hein, pénitence, pénitence, pénitence. Pourquoi elle dit trois fois pénitence? Comme dans le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean. Parce que je prie pour mes péchés, je prie pour les péchés de tout le sacerdoce et je prie pour les péchés du monde entier. Exactement comme dans la cérémonie du Kippour. Où je prononce donc trois fois le nom de Dieu, une fois par an dans le temple, je fais ça. Une fois pour le prêtre, il est désigné au sort, et puis il prononce le nom de Dieu une fois, pour lui, une fois. Pour tous les prêtres, une fois pour le monde, et puis et en faisant le tour, avec les cédras, avec le cédra, avec la myrte, avec la palme et avec le saule. Parce que, en fait, le prêtre, c'est la croix, le bois de la croix. Et alors, voyez, et oui, et il refait ça trois fois, ça fait neuf fois le nom de Dieu. Et il répète le nom, et puis ensuite, bouc émissaire, il reprononce le nom de Dieu sur le bouc émissaire. Parce que le nom de Dieu... Donc la récapitulation de toutes les sortes de péchés, c'est neuf, se mettent sur le dixième, le bouc émissaire. Et le nom de Dieu est sur le front du Messie, parce que le Messie, c'est Dieu. C'est Jésus. Le bélier, c'est le Messie. Et il doit être tué en dehors des murs de Jérusalem. Tout ça, c'est ce qu'on a vu, mais vous voyez, c'est quand même assez... Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Oui, alors la prière, du coup vous priez à la place de tous les autres. La confession de la Trinité, c'est quand vous faites oraison, vous portez du coup la confession de la très sainte Trinité et vous portez la communion des saints. Ça c'est sûr. Donc vous portez en même temps tous les pécheurs et en même temps vous portez toute la Trinité et tous les saints. C'est vrai. Vous êtes un saint. Alors c'est ça, c'est l'oraison de celui qui vient de se confesser. Il passe du péché du monde à la sainteté parfaite des saints. Les saints, le péché, il n'y a plus rien. Pourtant, ils en ont fait. Donc je passe de l'un à l'autre, et à force de passer de l'un à l'autre, j'acclimate, j'allais dire, si je puis dire, les pécheurs du monde entier, autant que je peux, à devenir des saints. Et ils reçoivent plein de grâces actuelles, tous. J'enveloppe de miséricorde. Je crie vers la très sainte Trinité. Je confesse avec le Christ dans la très sainte Trinité qu'il n'y a que l'amour après tout, comme l'Esprit Saint du reste. Je le confesse. Et je confesse qu'il faut faire miséricorde. Et je confesse, Hosanna de grâce, pitié pour nous. Et plus on est confessé, plus on est immaculé, plus on crie en pitié. Hosanna Rabba. Alors, du coup, vous comprenez bien que les présences après la consécration, il y a la présence réelle. Donc, dans tous les sacrements. Bon, quelle présence il y a? Il y a la présence de Jésus qui dit « Je suis la porte. Je suis la porte du ciel. Je suis la porte du ciel. » Il révèle quoi là-dedans? Il révèle quelque chose de la très sainte Trinité, hein? Je suis la porte du ciel. C'est comme dans l'Eucharistie, où on avait dit, Jésus avait dit, je suis le pain de vie. En disant, je suis, il dit qu'il est Dieu. Le pain, bah, c'est celui qui est mangé, donc celui qui est relatif à celui qui le mange. De vie, une fois que tu le manges, une fois qu'il est mangé, ça produit la vie. Donc celui qui mange, c'est le Père, le pain, c'est le Fils. Et l'unité des deux, c'est la vie. Je suis le pain de vie. C'est une révélation sur la très sainte Trinité. Je suis le pain de vie. Et Jésus, il montre que, quand il dit « Je suis le pain de vie », il montre que la très sainte Trinité, elle est là devant tous ceux qui le regardent, qui l'écoutent, qui le contemplent. Ici, il dit « Je suis la porte du ciel ». C'est pareil. Je suis la porte, mais la porte, elle ouvre sur quelque chose. C'est relatif à une intériorité, c'est relatif au sein du Père. Et le ciel, c'est l'Esprit Saint. Tout simplement. Il y a la présence de la très sainte Trinité. La porte, c'est évidemment Jésus. Cette blessure du cœur de Jésus, glorieuse, qui incendie tout, qui incendie la très sainte Trinité. D'une manière physique, si vous voulez. Alors, la Trinité n'avait pas besoin d'être incendiée, mais physiquement, elle n'était pas incendiée. Alors, physiquement, elle devient incendiée avec la blessure du cœur. Et ça met l'incendie en même temps au monde. La porte du ciel. Donc, vous avez la présence de Jésus. La présence de la très sainte Trinité. Je suis la porte du ciel. Bon. Vous avez la présence de tout ce qui peut être pardon, miséricorde et amour. La présence, si vous voulez, de toute l'économie divine. Parce que l'économie divine, Dieu nous aime. Du coup, comme il nous aime, il ne nous prend pas selon nos perfections, mais en fonction de nos limites. Et en fonction de nos limites, il nous pardonne toujours. Et c'est toute l'économie divine et toutes les formes du pardon, de la miséricorde et de l'amour que nous recevons. Nous recevons la confession du Christ, la présence de la confession du Christ, Jésus qui confesse, qu'il est la victoire de l'amour sur tout péché, au Père et aux hommes. Nous avons cette confession. Nous avons la dissolution de notre propre péché, mais avec la dissolution de notre propre péché, absolution, nous avons, bien sûr, que ça c'est une des présences d'un seul coup, nous sommes en présence de notre péché qui n'existe plus. C'est pour ça que c'est ego te absolvo. Ça veut dire que c'est dissous. C'est dissous et c'est transformé en gloire. Et du coup, c'est la présence d'une force divine, surhumaine, d'une force invincible contre l'enfer. Vous êtes en présence au moment où vous recevez l'absolution. Non seulement de la dissolution de vos péchés, mais d'une force invincible contre l'enfer, contre toute tentation, quelle qu'elle soit. On n'y fait pas assez attention à ça. Parce que si on s'est enfoncé immédiatement, en pleine conscience, en pleine lumière, eh bien je vous affirme qu'on aurait une force considérable après. Et nous sommes en présence de la confession de l'Église. Parce que l'Église confesse son Seigneur. Nous sommes donc en France, la confession de l'Église qui confesse sa foi, qui témoigne que Dieu est amour, qui témoigne que Dieu est pardon, qui témoigne que Dieu est bon, qui témoigne que tu es miséricorde, qui témoigne que tous les pécheurs sont pardonnés, qui témoigne de tout cela, qui témoigne de la joie de Dieu de pouvoir pardonner et pécher à tous, qui témoigne de tout ça. Voilà toutes les présences. Et c'est toute l'Église qui est présente, toute l'Église joyeuse qui est présente en nous. Alors à ce moment-là, vous avez les cinq présences, vous les connaissez déjà, mais c'est l'Église joyeuse. C'est la présence de la Jérusalem céleste, si vous préférez. Or, la Jérusalem céleste, dans la Jérusalem céleste, il y a cinq parties, vous le savez très bien. Alors, la première partie, c'est Jésus ressuscité en pleine gloire. La deuxième partie, c'est Marie dans son Assomption. La troisième partie, c'est l'Église glorieuse des saints. La quatrième partie, c'est l'Église militante sur toute la surface de la terre. La cinquième partie, c'est l'Église souffrante qui est au purgatoire. C'est comme pour l'Eucharistie, mais sauf que c'est l'Église joyeuse qui est là. Dans l'Eucharistie, je reçois l'unité du corps mystique, celle qui était là, voyez ? Là. L'unité du corps mystique. Ici, je trouve la finalité du corps mystique, la Jérusalem céleste. Voyez bien ? Et donc, je peux faire comme pour l'Eucharistie, si vous voulez. Mais pour l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe en moi ? Vous voyez, si je fais le schéma imaginatif, je recommence le petit, si vous voulez expliquer aux enfants au catéchisme. C'est pas ? Voilà, à l'Eucharistie, qu'est-ce qui se passe ? Faites comme Goldorak, vous ouvrez les portes en haut, et c'est toute l'Église des saints qui descend en vous, dans votre corps. Tous les saints. Ils n'ont pas de corps, eux. Il n'y a pas encore la résurrection de la chair. Tous descendent dans votre corps qui se nourrit de l'Eucharistie pour rejoindre le corps glorieux du Christ. Parce qu'ils trouvent la consolation de ne pas encore avoir la résurrection de leur chair dans le corps ressuscité du Christ. Alors invitez-les, c'est le moment. Vous ouvrez les écluses d'en bas pour inviter, comme la Vierge a fait à Fatima, vous voyez, elle a ouvert la terre, et puis dans les enfers, tous les lieux inférieurs, tous ceux qui sont dans le bas purgatoire, le haut purgatoire, le moyen purgatoire, ceux qui... Allez hop, faites-les rentrer, qui rejoignent la paix, la lumière de l'Eucharistie. Du corps ressuscité du Christ, ils sont sans leur corps. Ouvrez les écluses de la droite. D'abord les écluses de la gauche. Non, les écluses de la droite. Les écluses de la droite. Pour que toutes les œuvres qui se baladent, qui servent à rien dans l'univers, des hommes de bonne volonté, tous les hommes de bonne volonté viennent rejoindre le corps du Christ. Et pour que toute l'Église militante, tous les croyants baptisés, viennent rejoindre le corps du Christ. Et à ce moment-là, vous avez le corps du ressuscité du Christ, mais le corps ressuscité du Christ lui-même, si vous faites ça, eh bien, il fait que l'Immaculée aussi, dans son Assomption, est présente pour faire l'unité de tout ça, dans un seul corps mystique. Et c'est comme ça qu'on vit l'Eucharistie, c'est ce qui se passe à la conversio eucharistica. Quand le sacrement de l'Eucharistie disparaît par la digestion, il laisse la place à la présence réelle du corps mystique tout entier. Et c'est pour, si vous voulez vivre l'action de grâce de manière parfaite, au moment où l'Eucharistie, pendant 10 minutes où l'Eucharistie va se dissoudre comme pain et vin, il faut que vous soyez présent, vous, et c'est vous qui faites l'application des fruits de l'Eucharistie au monde, à l'Église des cieux, à l'Église souffrante. C'est vous. Tout est fait par Jésus. Tout est fait par Marie, mais Dieu veut que l'Église soit ce par quoi tous ses mérites soient appliqués dans le temps. Donc ça ne dépend que de nous que ça trouve son application. Et c'est ça l'action de grâce. Alors, et vous êtes présent réellement, hein, c'est une présence réelle, avec tous ces gens-là, des myriades. C'est une présence réelle, c'est une présence réelle. Et après vous sortez, et vous êtes l'Eucharistie dans le monde. Vous êtes l'Eucharistie du monde quand vous sortez dehors de l'Église. C'est la sortie du Saint-Sacrement. Les gens ne le savent pas, mais Jésus le sait. Et vous aussi, vous êtes de le savoir. Ça, c'est l'Eucharistie. Ben, c'est pareil pour, mais sous un autre mode. C'est pas la paix. L'Eucharistie, c'est la paix. La confession, c'est la joie. La joie. Donc la joie, c'est finale, la joie. L'unité de l'Église du corps mystique, c'est pour commencer. Et la joie, c'est pour finir. C'est quand l'unité s'est joint à son fruit. Et alors, c'est la confession ecclésiée. Et quand vous sortez non pas avec... Enfin, vous sortez bien sûr avec tout, mais au lieu que cette fois-ci vous les faites rentrer, vous avez reçu la confession de l'Église dans votre cœur blessé. Et donc, vous pouvez faire sortir, voyez, cette action de grâce, si je peux dire, cette jubilation partout. Et au contraire, alors vous sortez des écluses et... Faites sortir, et ça sort dans le purgatoire. Ah, vous pouvez inonder, comprenez, partout, tous les éléments de l'Église. C'est l'illumination. Vous concréez, vous procréez, si je puis dire, la Jérusalem céleste. C'est nous les bâtisseurs. C'est Jésus qui le dit. De la Jérusalem céleste. Et vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse, vous verrez que c'est nous les bâtisseurs. Et nous sommes les pierres pour construire la Jérusalem céleste. Il n'y a rien à faire. Et c'est nous. C'est la confession de l'Église. Allez. Et alors j'envoie l'Esprit Saint partout. Partout, partout. Au ciel. Mais je peux toujours le faire, ça. Regarde ce que ça intéresse l'enfant Jésus. Il disait, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Alors vous voyez. Alors nous, qui sommes sur la terre, on peut évidemment lui envoyer cette mission de la confession de l'Église pour que précisément elle glorifie. C'est un échange, vous voyez, on sait, elle, c'est à partir... Et pour le purgatoire, c'est pareil, on envoie l'Esprit Saint, on envoie l'amour, on envoie cette joie, cette allégresse de l'espérance, c'est le lieu de l'espérance, la souffrance, c'est le lieu de la... J'envoie toute cette joie extraordinaire au purgatoire, mais j'envoie, vous voyez, l'Esprit Saint, cette miséricorde, ce don parfait, cet incendie dans les hommes de bonne volonté, pour qu'ils puissent rentrer dans le mystère de la confession à leur tour. Qui reçoivent cette grâce actuelle de joie, de savoir que finalement ils sont petits et que c'est Dieu qui fait le reste. Et que Dieu les a choisis parce qu'ils étaient petits. Et ça ne leur fait plus de peine d'avoir été dans la petitesse. Ça ne leur fait plus de peine. Ils sont plus dans la... Ils ont péché, alors vous êtes dans la peine. Mais si vous envoyez une grâce chrétienne, invisiblement, mystiquement à ces gens-là, et ils se disent, mais je suis petit, mais c'est merveilleux. Comme ça, ça permet à Dieu d'être grand et en moi d'avoir plus de place. Parce que si c'est moi qui prends toute la place, il n'y a plus de place pour Dieu. Et je comprends que mes limites ne sont pas une cause de tristesse, elles sont une cause de joie, au contraire. Elles sont une cause de joie parce que c'est grâce à ça que je peux me rapprocher plus profondément de la miséricorde de Dieu, du don parfait de Dieu. C'est pour ça que la petite Thérèse de Jésus, elle disait ça. Elle disait, mais moi, quel dommage que je ne sois pas une grande pécheresse. Qu'est-ce que j'aimerais? Mais si je faisais un grand péché, si j'avais fait un grand péché, mais je serais dans un bonheur incroyable. Mais aussitôt, je le prendrais pour aller encore plus profondément dans la miséricorde du Père. Je danserais avec ça. Ouais, mais enfin, je ne veux pas pécher non plus. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est pour vous. On va venir à la théologie maintenant, et voir comment saint Thomas d'Aquin a parlé du sacrement de confession.